Alors, donc, dans la section Matthieu 5, 3 à 12, on a parlé, enfin Jésus a parlé des béatitudes. Le profil moral et spirituel du membre du royaume de Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est si tel est le profil ou le caractère du membre du royaume, qu'est-ce que ça va donner, ça, concrètement? Quelles sont les conséquences? Et dans les versets, dans la deuxième section, Matthieu 5, 13 à 16, je suggère que Jésus répond à cette question en parlant du rôle et de la mission du chrétien. Et il dit, c'est une question de vision. La question est comment le chrétien en tant qu'individu ou comment l'Église en tant que communauté se considère et se regarde dans le miroir. Un pommier, il va produire des pommes. Un poirier va produire des poires. Un membre du royaume qui incarne le profil des béatitudes, eh bien selon Jésus, il n'y a pas photo. Ça coule de source, il va être sel de la terre et lumière du monde. Voyez le lien avec ce qui précède. Donc, Jésus va souligner l'influence et le rôle que le chrétien doit jouer dans le monde. Parce que ce que fait le chrétien ou l'Église dépend de ce qu'il est. Sa nature détermine son comportement. Et pour Jésus, dans la mesure où nous sommes conscients de notre pauvreté spirituelle, soucieux d'offrir la grâce, la douceur, la miséricorde, motivés, passionnés par la recherche de la justice, de la pureté, de la paix, eh bien, il est évident que le monde du royaume ne va pas passer inaperçu. Et il va se faire remarquer dans le bon sens du terme. Alors si l'attitude du monde envers les chrétiens peut aboutir à la persécution, ce n'est pas automatique, mais c'est une option qui peut s'avérer actuelle, eh bien les chrétiens doivent réagir en étant sel de la terre et lumière du monde. Alors, on a raison de dire dans nos milieux que le chrétien ne doit pas être du monde, mais pour autant, il doit vivre sa vie chrétienne dans le monde. Je me souviens d'une définition de l'évangélisation qui était qui disait l'Église dans la rue et la rue dans l'Église. Waouh! Ben, il faut assumer le service après-vente, hein? Parce que est-ce qu'on est prêt à accueillir quelqu'un au premier rang qui a une mèche de cheveux rouge, bleu et puis verte? Bon, ce n'est qu'un cliché, hein, mais voilà. Notre défi en tant que chrétien, c'est d'assumer notre double citoyenneté. Nous sommes des citoyens de la cité céleste, mais en même temps, nous devons assumer nos obligations en tant que citoyens de la cité terrestre. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est pas très citoyen que de dire, ben moi je suis chrétien, donc je ne vote pas, donc je ne m'intéresse pas aux associations de la ville ou ceci ou cela. Et c'est vrai qu'historiquement, l'Église, elle a eu du mal à assumer sa double citoyenneté de la cité terrestre et céleste. Tantôt, elle a brillé par son absence du monde, en prétextant que le monde est mauvais, le monde est méchant, et il faut qu'on fasse des villages chrétiens, hein, où on va avoir que des chrétiens dans notre village. Et à l'autre extrême, parfois, l'Église, eh ben, elle a ouvert les portes tellement grandes ouvertes que le monde est entré dans l'Église, et finalement, à la fin, ben, l'Église était comme tout le monde. Et il n'y avait plus de différence. Pour Jésus, il n'y a pas photo. Dans la mesure où les chrétiens incarnent le profil des béatitudes, il va y avoir des conséquences. Et une forme de rayonnement. Matthieu 5, verset 13. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Alors, vous êtes la lumière du monde. Ça sous-entend que une des caractéristiques du monde, c'est d'être enténébré. Et le monde, c'est pas un endroit physique. Moi, je me souviens, je me suis converti fin des années 60, et à cette époque-là, on avait une conception du monde plutôt géographique. Un vrai chrétien, un bon chrétien, il va pas aller dans une salle obscure au cinéma. Et encore à l'époque, au cinéma, alors il n'y avait pas toutes les horreurs qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet, hein. Il y avait encore du Walt Disney, bon, aujourd'hui Walt Disney c'est plus ce que c'était, d'accord, mais enfin, on disait même, oh là là, un chrétien, il faut pas qu'il aille à la faculté, à l'université, il va perdre la foi, on va lui parler de la théorie de l'évolution, et oh, ça... On avait une conception plutôt géographique du monde, alors que, bibliquement parlant, le monde, c'est... Par définition, c'est là où on raye Dieu de la carte. Le monde, c'est le fait de vivre comme si Jésus-Christ n'a rien fait à la croix du calvaire. Le monde, c'est un espace enténébré, peuplé par des personnes qui sont en révolte contre Dieu, qui refusent de se repentir de leurs péchés, qui sont à la merci du prince de la puissance de l'air, comme dit Paul dans Éphésiens 2, 1 à 3, où manifestement, celui que la Bible appelle le prince de ce monde, qui nous fait respirer un air pollué et vicié par le péché, et qui maintient les habitants du monde dans une forme d'aveuglement spirituel et d'endurcissement, voire même de révolte contre Dieu, lui qui est le menteur et l'ennemi de Dieu par définition. Donc le monde, c'est le fait de rayer Dieu de la carte, de vivre sans Dieu et sans Jésus-Christ. C'est la chair qui prévaut, l'imprégnation de la nature humaine par le péché. Et c'est un état d'esprit complètement étranger et opposé à Dieu. Le monde brouille les cartes et inverse les valeurs. Et comme dit Ésaïe 5:20, le monde appelle bien ce que Dieu appelle mal. Il appelle mal ce que Dieu appelle bien. Il change la douceur en amertume, l'amertume en douceur, etc. Alors... Le monde, donc, donne des signes de dégradation. Le monde, d'un point de vue biblique, ne va pas s'améliorer. J'allais dire, les chiens ne font pas des chats. Et il y a des gens qui font leurs courses chez Carrefour et qui positivent, mais faut pas s'attendre à ce que l'humanité, en révolte contre Dieu, s'améliore ou se rapproche de Dieu. Nous qui connaissons les textes, nous savons bien que le monde, dans son immense majorité, reste en révolte contre Dieu. D'ailleurs, les textes nous parlent des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Et dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, alors, vous qui êtes en bord de mer, vous aurez remarqué qu'il n'est plus question de la mer dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. J'espère que cela ne va pas vous attrister au point de dire c'était quand même mieux à Dunkerque. Mais Dans l'écriture, la mer est souvent le symbole des nations, des personnes qui vivent dans les ténèbres et qui sont liguées ensemble et qui sont en révolte contre Dieu. Et la mer est connotée d'une façon négative. Il y a le Léviathan qui réside dans la mer, qui est cette créature par définition hostile à Dieu. Et bon, voilà. Mais rassurez-vous, vous Dunkerquois et Dunkerquoises qui avez le pied marin, je pense que vous ne serez pas déçus du voyage quand vous vous retrouverez sur la nouvelle terre. Et il y en aura pour tout le monde. Et voilà, je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais c'est pas ça qui m'empêche de dormir la nuit. Donc, le monde ne va pas s'améliorer, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Le monde a besoin d'être éclairé, parce que la Bible dit que le prince de ce monde, ce qui le caractérise, c'est le mensonge. Et les gens dans notre monde préfèrent un mensonge qui les arrange à une vérité qui les dérange. Et c'est la raison pour laquelle proclamer le message de l'Évangile, la proclamation du message de l'Évangile n'attire pas les foules. Mais en tout cas, Jésus nous a laissés en ce bas monde. Au début de ma vie chrétienne, moi, je me disais, mais pourquoi le Seigneur, tout de suite après ma conversion, n'a pas appuyé sur un bouton pour me faire arriver en vol direct et sans escale au pays de la gloire éternelle? Bienvenue au club si vous vous êtes posé ce genre de questions, mais on a la réponse. Dieu a une mission pour nous. Et c'est pour être lumière du monde et celle de la terre. Donc, quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis du monde, puisque le monde est enténébré, le monde est mauvais? Eh bien, comme dit la petite chanson, ma petite lumière, hein, il faut la faire briller. D'ailleurs, Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 4 à 8, il parle des fils de la lumière. Et il dit que nous ne devons pas dormir ni pratiquer les œuvres des ténèbres. Paul dit cela dans Romains 13, 11 et dans Éphésiens 5, 8 à 14. Il parle des enfants de lumière. Dans Ésaïe 60, versets 1 à 3, cette prophétie messianique disait « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. » Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, lui-même, comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Alors bien sûr, là, il est question de la gloire de la future Nouvelle Jérusalem, mais on peut discerner en filigrane ce que Jésus dit ici. Alors, Jésus dit, c'est vous et c'est personne d'autre. Et là, il faut remettre les chrétiens sur la carte. Réticent, hein. Oh là là, c'est vraiment de l'endurcissement, mais je suis obstiné. Alors, Jésus dit, rappelez-vous, il a une bande de paysans palestiniens devant lui, et il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Des gens ordinaires, mais des gens qui ont été choisis. Quand on voit les disciples que Jésus a choisis, je présume que vous et moi, si vous aviez fait partie du comité de sélection ou de recrutement des disciples, il y a peut-être des dossiers que vous auriez laissés au fin fond de la pile, ou que vous auriez carrément mis classement vertical dans la corbeille. Et Jésus n'a pas fait d'erreur en choisissant ceux qu'il a choisis. Il a choisi un Judas en toute connaissance de cause. Entre parenthèses, c'est quand même, bon, c'est pas un encouragement pour notre médiocrité. Nous, on n'a pas le don de connaissance que Jésus avait, mais en tout cas, voilà. Et puis, dans l'équipe de Jésus, il y avait des pacifistes, et puis à côté, il y avait des zélotes, hein. Des gens qui étaient prêts à prendre le Kalachnikov pour tirer sur tout ce qui bouge. Eh bien, bonjour l'ambiance, hein, quand il fallait maintenir l'unité dans cette belle diversité. On n'a pas des enregistrements audio d'époque, mais je présume qu'à certains moments, ça devait chauffer dans la chaumière, hein, ou sous les toiles de tente, je ne sais pas. Mais enfin, alors c'est vous que Dieu a choisi. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29, il leur dit, mais considérez-vous que c'est vous que Dieu a appelé. On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon des critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société, mais Dieu a choisi les choses ou les personnes folles ou insignifiantes aux yeux du monde, et il a plu de les inviter à faire partie de sa famille. Le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu, il n'y a rien à dire. Il a choisi Israël, il l'a bien dit dans l'Ancien Testament, c'est pas parce que vous étiez mieux que les autres, hein. Au contraire, c'était l'un des peuples les plus insignifiants. Mais voilà, Dieu a le chic de brouiller les cartes et de faire le contraire de notre logique humaine. Alors Jésus va leur dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Jésus ne dit pas, vous êtes l'or de la terre, ni le pétrole, ni l'uranium de la terre. Bon, il savait peut-être que ça, c'était des denrées qui, un jour ou l'autre, connaîtrait une rupture de stock, mais j'aime bien cette image, nous ne sommes que le cadre d'une image que nous devons présenter au monde. Nul besoin d'un encadrement luxueux, orné et sculpté, puisque l'essentiel c'est la photo au centre, la personne est l'œuvre de Jésus. Et évidemment, ce qui fait que nous pouvons être lumière ou sel de la terre, c'est ce que Jésus fait au travers de nous. Et concernant cette lumière, finalement, nous ne sommes que le filament et la lumière de l'Esprit de Dieu va illuminer ce filament et de sorte que les non-croyants vont voir la lumière de Jésus qui brille en nous. Alors dans Jean 15-16, Jésus a bien dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors moi je trouve que souvent les chrétiens, ils ont une image négative d'eux-mêmes. Alors c'est vrai, nous les évangéliques en France, rappelez-vous, dans les années 1950, en France, il y avait 50 000 évangéliques en France. Aujourd'hui, on considère que il y a les estimations larges vous donneront au-dessus d'un million, mais je pense raisonnable vous diront 600, 700 000, grosso modo. Et en 2004, Monsieur Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avait déjà remarqué qu'en France, les deux religions en pleine croissance, c'était un, l'islam sunnite, et deux, les évangéliques. Et je pense que l'avènement du CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, dont votre union d'église, les communautés et assemblées évangéliques de France, sont membres, et membres, l'avènement du CNEF a permis de mettre les évangéliques sur l'échiquier. Hein. Les évangéliques font partie du paysage social, au même titre que l'hôtel des finances publiques, l'hôtel de ville, le centre culturel ou je ne sais quoi encore. Et je pense que les chrétiens évangéliques maintenant, ils sortent de leur anonymat, on a longtemps brillé par notre absence, maintenant on a planté le drapeau. Les journalistes ont compris qu'il ne faut plus dire que nous sommes des évangélistes, mais des évangéliques, même si nous devons avoir la fibre évangéliste, nous sommes bien d'accord. Donc voilà. Mais moi, trop souvent, je trouve que les chrétiens menaient profil bas, s'excusaient presque d'exister. Je me souviens quand je faisais le service militaire, début des années 70, j'étais dans un régiment, on était 1000 participants, 1000 soldats, et j'avais demandé à aller au fameux pèlerinage protestant dans les Cévennes. Et le colonel était tout surpris qu'il y ait un protestant. Bon, moi, j'avais bien compris que c'était protestant et protestant, hein, grand P, mais peut-être pas toujours évangélique, mais ça me faisait 2-3 jours de permission exceptionnelle. Ma foi, pas bête la mouche, c'était bon à prendre. Mais j'étais le seul de tout le régiment, et le colonel était impressionné. Ah, il y a un protestant, là. Bon, voilà, une espèce en voie de disparition. Mais pour Jésus, il n'y a pas photo. Jésus dit, attendez, ne vous cachez pas sous la moquette, vous, les enfants de Dieu, les membres du royaume. Ne vous cachez pas derrière la tapisserie. Vous faites partie du paysage et vous devez assumer votre part, votre responsabilité. Vous êtes irremplaçable. Je crois que Madame Soleil, un jour, vous savez, cette dame qui, cette Madame Irma qui regardait dans sa boule, qui aurait dit un jour, si les chrétiens faisaient leur boulot, moi je n'en aurais pas autant. Bon, à bon entendeur, salut. En tout cas, pour Jésus, il n'y a pas photo. C'est vous, les membres du royaume, qui êtes appelés à remplir une mission. Et quelque part, si on est défaillant, eh bien... D'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi Jésus n'a pas confié la mission d'évangéliser le monde à des anges? Parce que quand on étudie le ministère des anges dans l'Écriture, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Alors, il y a des anges qui ont un service d'être croque-morts dans l'au-delà. Il y a toutes sortes de ministères des anges. Mais jamais vous ne verrez qu'un ange a un ministère de proclamer l'Évangile. Pourquoi? C'est tout simple. C'est que aucun ange ne peut dire, eh bien, avant de connaître Jésus, moi, je braquais les banques, je piquais dans le sac des mémés, et je fumais le pétard. Mais maintenant, Jésus est mort pour moi, et il a changé ma vie. Non, parce que l'œuvre de Jésus à la croix, elle est valable uniquement pour les descendants de Adam et de Ève, et pas pour le monde invisible. Alors, il y a des êtres du monde invisible qui sont restés fidèles à Dieu, mais ceux qui ont pris parti pour l'adversaire de Dieu, l'ange de lumière qui est devenu le diable, Satan, eh bien, ceux-là sont condamnés à l'éternité, aux ténèbres et à la perdition éternelle. Donc, il n'y a qu'un membre du royaume qui peut dire, eh bien, moi, avant de connaître Jésus, j'étais esclave de mes vices, de mes passions, de mes hormones. Maintenant, j'ai été purifié par le sang de Jésus et Jésus a fait de moi une créature nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Donc, c'est pas une affirmation. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Jésus ne dit pas, comment vous sentez ce matin, mes petits amis? Parce qu'aujourd'hui, on vit à l'ère de... Hein, est-ce que tu le sens ou tu le sens pas? Ah ben, si tu le sens pas, tu le fais pas. Ah oui, d'accord. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'a pas été élevés avec ce genre de... Hein, et c'est comme les enfants aujourd'hui, on va leur proposer 5 pots de yaourt différents, avec c'est eux qui sont prescripteurs, et moi je voyage et je pourrais écrire un livre sur... je vois parfois dans les trains des gens, des parents qui ont bac plus 6, 7, 8, 9 ou 10, et qui se laisse mener comme ça par le bout du nez par un petit bambin haut comme deux pommes et demie. Bon, je crois que la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents », mais manifestement, il y a beaucoup de parents qui obéissent à leurs enfants. C'est un autre message, et j'espère que je ne serai pas poursuivi pour ce que je suis en train de dire. C'est pas la seule chose qu'il faut retenir, de toute façon. Mais être lumière du monde ou celle de la terre, on est d'accord, Jésus dit, c'est une affirmation. Ça fait partie du package. C'est pas une option. Et ça soulève la question, comment est-ce que moi, quand je me regarde dans le miroir, quelle image est-ce que j'ai de moi-même et quelle attitude j'adopte vis-à-vis du monde? Jésus, le serviteur de l'Éternel, était appelé à être la lumière des nations. Hein, ça, c'est les prophètes qui ont Ésaïe 42:6. Le serviteur souffrant de l'Éternel est appelé à être la lumière des nations. Jésus, quand il est venu, il a dit « Je suis la lumière du monde », Jean 8. Et maintenant, Jésus, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit, vous êtes la lumière. Vous voyez la transmission de la mission à accomplir. On peut se poser la question, quel exemple de personnage vous pouvez penser, soit des personnages bibliques, soit de l'histoire, soit peut-être des gens que vous connaissez, qui, pour vous, sont celles de la terre, lumière du monde, qui vont laisser des traces derrière eux. Une question provocatrice que j'aime bien poser aux jeunes, c'est, mais j'y vais doucement et diplomatiquement quand même, quel épitaphe est-ce que tu aimerais que l'on inscrive sur ta pierre tombale? Pardonnez-moi, c'est macabre. Bon, d'abord, il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est une épitaphe, parce que il y en a qui pensent que c'est un DVD. ou d'une manière un peu plus soft, quelle différence est-ce que ça aurait fait sur la Terre si tu n'avais jamais été catapulté sur la planète Terre? Vous voyez le genre de... Hein? Ou qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi une fois que tu ne seras plus de ce monde? Ou dans quel domaine est-ce que tu peux au mieux marquer ton empreinte? Marquer de ton empreinte ton passage sur la Terre. Bon, c'est quand même des grandes questions. Et je suis d'accord que peut-être il faut peut-être prendre plusieurs cafés avant de se poser ces questions pour certaines personnes. Mais, voilà. Qu'est-ce qui caractérise une attitude spécifiquement chrétienne face au monde? Bon, alors on a dit il y a des extrêmes. D'un côté, non, le monde est mauvais, le monde est méchant, faut pas... À l'autre extrême, vous savez, il y a ce qu'on a appelé l'église émergente, où les chrétiens ont réfléchi en se posant la question de notre culture, qu'est-ce qu'on peut enlever pour que le monde puisse entrer dans l'église. Enfin, le monde, les gens du monde puissent venir à l'église. Mais d'un point de vue biblique, le seul obstacle qui doit empêcher une personne de venir à Dieu, c'est le scandale de la croix. L'opprobre de la croix. Quel rôle l'Église en tant que communauté peut-elle jouer dans le monde? Quel impact le chrétien peut-il avoir dans la cité? Alors bien sûr, vous allez me dire, moi, petit chrétien, j'habite au 15e étage de ma tour, je vois pas quelle différence je peux faire à Dunkerque. Peut-être qu'à titre individuel, je vais pas révolutionner la vie du quartier, mais même si ce que je fais à l'échelle humaine, ça représente un grain de sable au bord de l'océan, ce grain de sable, pour celui qui va en bénéficier, ça va être une montagne. Ou cette goutte d'eau que je vais apporter, cette pierre que je vais apporter, pour celui qui va en bénéficier, ça va être un océan. Bon. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Alors, comme vous savez comme moi, la lumière est là pour effet de chasser les ténèbres. Vous entrez dans une pièce. Mon interrupteur, tchoum, tout de suite, les deux, il ne peut pas y avoir de cohabitation possible. Hein. Bon. La cohabitation, on a donné hein, au plan politique. Hein, vous vous souvenez, quand on avait un président d'un bord politique et un premier ministre de l'autre. Hein, c'était un peu mon cas, c'était pas évident, mais voilà. Bon, la lumière dans la Bible, c'est la pureté, c'est la vérité, c'est la connaissance, c'est la présence de Dieu. Par opposition aux ténèbres, c'est l'impureté, c'est l'erreur, c'est l'ignorance, c'est... le fait d'être abandonné de Dieu. La question est de savoir en quoi les chrétiens sont visibles. Ça me fait penser au témoignage d'un jeune chrétien qui s'était converti juste avant d'aller au service militaire. C'était encore à l'époque où le service militaire, c'était un rite initiatique du passage. Hein. Et dans les chaumières, à l'époque, on entendait dire « Tu vas voir, il va faire l'armée, ça va faire de lui un homme ». Et donc ce jeune chrétien s'était converti peu de temps avant d'aller à l'armée. Et il est allé à l'armée, et après, au bout de sa première permission, il est revenu dans l'église, et des frères et sœurs lui ont demandé « Comment ça s'est passé ?»« Oh, frères et sœurs, Je vous remercie pour vos prières. Personne ne s'est rendu compte de rien, qu'ils ne sont pas rendus compte que j'étais chrétien. Ah oui, bah oui, mais il n'avait pas compris là, il n'avait pas tout compris, il fallait réexpliquer. Voilà. Et donc la question c'est, en quoi est-ce que les chrétiens sont visibles? Pour être crédible, il faut être visible. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le domaine de la communication, dans un premier temps, le plus important, c'est pas le message, mais le messager. Si pour X ou Y raison, avec le messager, ça passe ou ça passe pas, quel que soit le message, si ça passe pas, c'est mort. Faut lâcher l'affaire. Et le drame, c'est que nous, les chrétiens, on a un bon produit, entre guillemets, à proposer, un bon message. Parfois, on n'est pas au top dans la manière dont on le présente, ou je dis pas qu'il faut faire du marketing, des études de marketing et de e-commerce et tout ça, mais quelqu'un a dit parfois, nous, on a un excellent produit, mais on ne sait pas le proposer, on ne sait pas le vendre. Hein. Alors que d'autres à côté, c'est vraiment de la mauvaise cam, mais comme ça présente bien, eh ben voilà, ils ont des bons de commande. Bon, on va pas réduire l'évangile à un produit commercial, on est bien d'accord. Mais l'importance du messager. Créer une connexion avec notre interlocuteur pour qu'il ait envie de nous revoir une deuxième fois. Moi, je pense dans nos communautés, vous savez, on a souvent des sœurs qui sont à l'évangile et le mari qui ne l'est pas. Parfois, alors, il y a un repas fraternel ou une activité, moi je connais quelqu'un, il s'est converti, il n'était pas chrétien, sa femme lui a dit, ben dans l'église il y a des travaux, il était manuel, il était très branché bricolage, et ça l'a tiré, et il est venu faire du bricolage avec les chrétiens à l'église, et puis de fil en aiguille il s'est converti. Bon, je dis pas que c'est le moyen pour tout le monde, mais... Au moins, le service minimum, c'est quand un non-croyant vient une première fois et rencontre des chrétiens, qu'il ait au moins envie de les revoir une deuxième fois. Hein. Et puis, petit à petit, voilà, il faut créer une connexion, une mise en confiance. Mais en tout cas, l'idée, c'est que, est-ce que nous sommes visibles? Est-ce que nous sommes lisibles? Est-ce que nous sommes compréhensibles? Et vous savez, parfois, avec notre langage, c'est redoutable, hein. Mais avec notre patois de Canaan, ça va pas le faire. Il faut vraiment un décodeur. Et là, il faut passer au rayon X de je sais pas quelle machine, mais il faut revoir notre vocabulaire. Et la manière dont on donne son témoignage, même personnel, hein, on peut être théologiquement au top, avoir les mots qu'il faut, mais si c'est pas adapté à ce que l'auditeur peut comprendre, on va passer à côté. Visible ou invisible, ma lumière brille-t-elle? Je suis passé dans une communauté en Suisse et les chrétiens s'étaient posé la question comment on peut être un témoignage dans... C'est un petit village, alors bien sûr c'est la Suisse. Ils s'étaient rendu compte à l'époque qu'il n'y avait pas de magasin informatique. Et il se trouvait que dans l'église, il y avait deux frères, je crois, qui étaient au chômage et qui étaient dans l'informatique. Et ça, c'était au début du grand boom des ordinateurs, vous voyez. Eh ben, ils ont ouvert un petit des cours d'informatique comme ça. Et puis, petit à petit, ils ont pu avoir des contacts. C'était ouvert sur la cité. J'étais aux 20 ans de l'église le week-end dernier en région parisienne. J'ai bien aimé la réflexion des gens. Tenez-vous bien, c'est une église évangélique de l'association baptiste. Elle n'est pas charismatique, elle n'est pas pentecôtiste. Ils sont plus de 500 au culte. Et ils se posent toujours la question, ils se disent, on habite dans une région. Aujourd'hui, on est entre 500 et 600 au culte, c'est formidable. Mais, il y a un problème, il y a encore 80 000 personnes autour de nous qui ne sont pas à l'église ce matin. Voyez, c'est une autre façon de réfléchir. Alors je dis pas que tout le monde doit réagir comme ça, mais et ils disaient dans leur témoignage, ils brossaient un peu l'historique, une des questions qu'on veut continuer de se poser, puisque c'est l'église de Porto-Combo, comment et il y avait le maire qui était là, qu'est-ce qui manquerait à la ville de Porto-Combo si on n'existait pas? c'est une question qui fait sens, hein. C'est du lourd, hein. Alors nous, on n'est peut-être pas toujours conscients, entre parenthèses, des bienfaits secondaires du message de l'Évangile. Mais je pense que nous, qui, avec le message que nous avons, Dieu soit béni, on voit des couples qui ne connaissaient pas Jésus et qui étaient peut-être sur le point de divorcer et qui, en découvrant Jésus, eh bien, ça repart sur une nouvelle base. Et aujourd'hui, je pense qu'un couple qui tient à peu près la route par la grâce de Dieu, ben, c'est un témoignage. Je me souviens, dans notre petite fille, quand elle était plus petite, elle prenait des cours de piano, et sa prof de piano était en recherche spirituelle. Elle était très branchée hindouisme et bouddhisme. Et puis, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a trouvé Jésus et s'est convertie. Et elle nous a raconté un peu son histoire. Elle nous a dit, mais il y avait quelque chose qui me préoccupait, enfin, pas, qui m'interloquait plutôt. J'avais observé, parmi tous les enfants qui venaient à mon cours de musique, c'était un cours municipal, il y avait deux petites filles, c'était toujours le même papa ou la même maman qui venait les chercher à la fin du cours, ou qui les amenait. Et rien que ça, ça l'avait fait réfléchir. Et bingo, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il se trouve que ces deux mêmes papas et ces deux mêmes mamans, ben c'était des chrétiens évangéliques. Et ça a été un des éléments qui l'ont vraiment interloqué, qui l'ont fait réfléchir. Et la bonne nouvelle, c'est que elle a pu se convertir. Donc, ne nous sous-estimons pas. Mais moi, je pense que le témoignage d'un couple qui, par la grâce de Dieu, tient la route et tient dans la durée. J'ai assisté au mariage d'un couple. Après 50 ans de mariage, ils ont voulu se redire oui devant monsieur le maire. Ah ben c'était la fête, hein. Et moi je leur ai dit, mais c'est des couples comme ça. Moi j'ai envie de téléphoner à TF1 ou JT de 20h en disant j'ai un scoop. Vous pourrez nous montrer là, le mariage de quelqu'un, ça fait 50 ans et ils rempilent, ils en redemandent encore. Ah non, mais ça nous change de ce qu'on voit à la télé. Enfin, moi, je regarde pas beaucoup. Si, je regarde des reportages animaliers parce que au moins, bon, bref, c'est un autre message. Mais la question c'est, est-ce que ma lumière brille dans les ténèbres? Alors voilà, attendez, il faut revenir en arrière, voilà. Par quels moyens ou actions l'Église et les chrétiens peuvent-ils se rendre plus visibles dans le monde, du travail, dans les quartiers, dans la société, dans la culture, dans les médias? Alors ça, il y a 30, 40 ans, on n'osait pas se poser ce genre de questions, parce qu'on disait, eux, c'est le monde. Et par définition, nos locaux étaient des bocaux. Hein. Et on vivait dans un cercle hermétiquement fermé. Il fallait même boucler les fenêtres pour que le monde ne rentre pas par la fenêtre. Et on était, mais... Bon, c'est vrai que moi, je me souviens, dans les années 70, on était des allumés. Hein. Faut voir, on évangélisait, mais à l'arrache, comme les terroristes... aujourd'hui, hein, les gens sur leur veste de costume, c'était écrit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie hein, » en jaune fluo sur la veste de costume. Hein. Et quand on, avant de dire bonjour à quelqu'un, Jésus revient, es-tu prêt hein, et si tu meurs dans 10 minutes, t'es prêt à aller au ciel? Bon, c'était, on était des allumés, et on croyait qu'on pouvait changer le monde. On avait 18 ans et demi, et voilà. Bon, mais enfin... c'était radical. Bon, aujourd'hui, il faut plus faire de la même manière, c'est clair. Mais il y a quand même des questions à se poser. Moi, j'ai pas les réponses. Au moins, si on pose les bonnes questions, et Dieu merci, en France, moi, j'ai vu un ancien étudiant de l'IBG, l'Institut Biblique de Genève, qui voit sa vocation comme coach, comme aumônier dans le milieu sportif. Aumônier, c'est répondu aux US. Dans les équipes de basket, il y a des coachs chrétiens et il y a des aumôniers. Et en Angleterre, bon ben en France, on est à l'âge de pierre. Hein. On est dans le G8, mais dans certains domaines, on est encore à l'âge de pierre. Sur un plan pratique, suis-je un chrétien opaque, faisant écran, ou un chrétien translucide qui laisse passer la lumière? Voilà, c'est la question est posée. Bon. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Alors, Il y a beaucoup de vertus, le sel, et vous avez certainement entendu beaucoup d'images sur le sel. Vous savez, c'est un peu comme les paraboles. Dans une parabole, il ne faut pas exploiter tous les détails. Sinon, vous allez aller faire du hors-piste et vous allez vous retrouver dans le mur. Il y a une leçon principale que la parabole, elle fixe. Maintenant, il ne faut pas exploiter chaque détail au point de... Voilà. Mais bon, pour faire simple, le sel, c'est un agent antiseptique. Je rappelle qu'au temps de Jésus, en Palestine, on ne pouvait pas acheter un congélateur chez Darty et EDF n'avait pas encore électrifié toutes les lignes. Donc le sel, c'était un agent de préservation pour empêcher, j'allais dire, le processus de corruption, ou pour le moins pour le retarder le processus de voilà. Donc quelque part, les chrétiens ont le rôle de jouer un rôle antiseptique et de récurrent aussi. Hein. Autrement dit, si les chrétiens n'étaient pas de ce monde, le monde s'enfoncerait encore davantage dans le péché. Et dans l'histoire de l'Église, on observe que, à l'origine des grandes réformes sociales, prenez la Croix bleue, la lutte contre l'alcoolisme, ou la lutte contre l'esclavage, contre la prostitution, contre le trafic d'êtres humains ou l'exploitation sexuelle des enfants, souvent vous allez trouver parmi les pionniers des personnes qui étaient animées des valeurs de l'Évangile. Et ça, c'est un impact social concret, mesurable et quantifiable. Et si les chrétiens n'étaient pas de ce monde, la société s'enfoncerait encore davantage dans le péché et irait davantage à la perdition. Le sel, une autre vertu du sel, c'est un condiment, ça donne du goût. Bon, vous avez peut-être essayé les frites chez McDo sans sel, bon, il y a... Voilà, faut quand même pas abuser du sel. Mais le sel, c'est un ingrédient ordinaire qui disparaît au moment où il sert, entre parenthèses. Au temps de Jésus, il y avait quelque chose qui ressemblait au sel, mais qui n'avait pas les propriétés chimiques du sel. Et ce produit qui ressemblait, je crois que c'était une espèce de gypse, de calcium, on l'utilisait pour en mettre au bord des chemins comme désherbant. Il n'y avait pas le Roundup à l'époque, hein, et d'ailleurs il vaut mieux plus l'utiliser. Mais ce substitut du sel, c'était plus rien ne poussait, hein, c'était une catastrophe. Si vous voulez faire une crasse à votre voisin, vous mettiez du gypse de calcium dans son jardin, et après il fallait assumer le service après-vente. Mais c'est pour ça que Jésus va dire, si le sel perd de sa saveur, il n'est plus bon qu'à être jeté et foulé aux pieds. Voilà. Mais donc, le sel, c'est un condiment qui donne du goût. Ben, la question qui tue, c'est, est-ce que moi, en tant que chrétien, je donne envie aux autres d'être chrétien? Ah non, si être chrétien, c'est être comme lui ou comme elle, non merci. Hein. J'ai donné et c'est pas ma tasse de thé. Est-ce que le christianisme que je donne à voir et que j'incarne donne envie ou fait plutôt pitié? Est-ce que les gens, quand ils me voient en tant que chrétien, ça leur donne envie de zapper et de changer de chaîne? Alors, Jésus dit, le sel, tant qu'il reste dans la salière, il ne sert à rien. Il risque de prendre l'humidité. Jésus dit, il faut répandre son grain de sel. Bon, il ne dit pas comme ça, mais alors en français, quand on dit, ah non, mais il fallait qu'elle répande ou qu'il répande son grain de sel, c'est pas un compliment. Mais, dans le bon sens du terme, le chrétien doit répandre son grain de sel. Il doit afficher sa spécificité. Il doit montrer sa différence. Et déjà, la manière dont il parle. Et dans Colossiens 4:6, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Ça, c'est dans la version Bible du Semeur. Dans la version Colombe, je crois, c'est assaisonné de sel. Et le chrétien doit savoir répandre son grain de sel, dans le bon sens du terme, et ça doit se reconnaître sur la manière dont il s'exprime. Il y a un verset des Proverbes redoutable qui dit « L'imbécile, tant qu'il n'a rien dit, tout le monde pense qu'il est intelligent. » Eh oui, c'est à partir du moment où il l'ouvre, ah oui d'accord, ok, on sait à qui on a affaire. Et on voit quelle est la source qui est derrière. Bon, alors, en quoi les prophètes de l'Ancien Testament, en quoi Jésus et les chrétiens du livre des Actes ont-ils été sels de la terre? Ça, c'est une bonne question à se poser. Et nous, dans la vie de couple, de famille, dans le monde du travail, dans les quartiers, dans la vie sociale, culturelle, politique, comment est-ce qu'on peut être sel de la terre? Je ne dis pas que les chrétiens doivent s'engager en politique. J'observe simplement, c'est dans les 10 dernières années, que dans les églises où je passe, je rencontre de plus en plus de chrétiens qui mouillent le maillot et qui s'engagent, alors dans des associations locales, parents d'élèves, etc., et même dans des conseils municipaux. Et qui, par la grâce de Dieu, arrivent à tenir, c'est pas évident, c'est pas simple, hein, pas se laisser instrumentaliser, pas entrer dans certaines magouilles ou quoi, mais c'est pas en pratiquant la politique de la chaise vide, parce que c'est facile de critiquer, hein, ou prenez même une association, dire ah non, non, mais ils font ci, ils font ça, mais attendez. Mais nous, si on n'y va pas pour dire, voilà, ce qu'on pourrait faire en bien, d'une façon positive, voilà. Bon, mais voilà, c'est des questions, hein, j'ai pas les réponses, mais au moins, voilà. Alors Jésus dit, si le chrétien perd de sa saveur, s'il devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Jésus n'a pas prié dans Jean 17 pour que le Père retire les chrétiens du monde, mais qu'il les protège du monde. Alors oui, je vous ai parlé de ce fameux sel que l'on récoltait par évaporation. Alors, quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », probablement qu'il faisait référence et allusion au sel que l'on récoltait par évaporation à la mer morte. Et ce sel contenait des cristaux de gypse qui... Alors, excusez-moi, tout à l'heure je vous ai dit une erreur, parce que ce sel de la mer morte qui était bon, il contenait souvent des cristaux de gypse qui correspondaient à la précipitation du sulfate de calcium contenu dans l'eau de mer. Les chimistes, ils vont être contents là, hein. Voilà. Le gypse mêlé au sel marin qui lui ressemblait à s'y méprendre faisait perdre ses propriétés au sel et le rendait impropre à un quelconque usage. Et il ne fallait surtout pas le répandre dans le jardin ni dans un champ car plus rien ne poussait. Donc, pour Jésus, dès lors que les chrétiens perdent de leurs propriétés, eh bien, ils ne sont plus d'aucune utilité. Et le risque de perdre sa saveur, ben vous vire à la contrefaçon. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. 1 Jean 1, versets 5 et 6. Qu'est-ce qui peut empêcher le chrétien en tant qu'individu ou l'Église en tant que communauté de remplir sa mission, de répandre son grain de sel? C'est la désobéissance, c'est le péché, c'est le compromis, la crainte des hommes, l'égoïsme, l'autosuffisance, le manque de vision, le refus du pardon. Le chrétien perd de sa saveur dès lors qu'il permet à la mauvaise herbe du péché d'envahir son jardin secret. Et dès lors que l'Église ou les chrétiens perdent de leur pouvoir salant, eh bien, ils perdent leur singularité, ils perdent leur particularité, leur spécificité. En somme, ils perdent du coup leur identité et leur raison d'être. Ils perdent leur efficacité. Et la seule chose, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou ce que certains ont imaginé, en voulant être comme tout le monde pour attirer le monde, la seule chose qui puisse attirer le monde, c'est lorsque l'Église est différente du monde. Et lorsqu'elle n'a pas perdu son pouvoir salant. Alors vous l'avez compris, c'est une énorme responsabilité. Et la balle, elle est dans notre camp. Selon vous, quel personnage biblique ou historique illustre la personne qui a su garder sa saveur chrétienne? Ben moi je pense à Daniel par exemple, à la cour de Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, c'est un peu plus long. Joseph, bien sûr. Esther, des gens qui n'ont pas magouillé dans le compromis. À quel signe peut-on reconnaître qu'un chrétien a perdu sa saveur? Ben c'est quand on ne voit plus trop de différence entre le chrétien et un non-chrétien. Et le drame, parfois, dans nos milieux, c'est que vous avez des gens qui vous disent « Ah non, mais moi, avec le boulot que j'ai, le transport et tout, j'ai pas le temps de lire la Bible. Par contre, je sais pas combien de temps il passe devant la télé. » Alors, je dis pas que c'est un bon chrétien ne doit jamais regarder la télé, non. Mais je dis que si quelqu'un qui se dit chrétien, qui dit il n'a pas le temps de lire la Bible, mais il a le temps de voir je ne sais pas combien de temps par jour la télé, il y a peut-être des priorités à remettre en ordre. Et le drame, c'est quand des gens qui se disent chrétiens, sans s'en rendre compte, sont plus influencés par les paradigmes et par les principes du monde que par la parole de Dieu. Et là, l'aiguille est dans le rouge. Et on est mal. Bon. J'avais dit que je terminais à 20, alors vous voyez que je suis un menteur, j'ai déjà 3 minutes 30 de retard, mais il me reste 5 minutes, donc je vais en profiter jusqu'au bout. L'impact des œuvres bonnes. Bon, ben pour Jésus, il y a une obligation de résultat. Que votre lumière, verset 16, brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, quelque part, c'est comme si le monde nous dit à nous chrétiens et à l'Église, ouh, l'Église, les chrétiens, où êtes-vous? Faites-moi un signe que je vous vois dans ce monde enténébré et embrouillé. Pour Jésus, il y a une obligation de résultat, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. Jésus n'a pas dit prêcher des bons messages pour que les gens entendent. Ça, c'est un début, c'est un moyen. Mais et souvent, avant que les gens puissent voir nos œuvres, écouter notre message, il faut qu'ils voient nos œuvres. Et William Booth l'avait bien compris, hein, avec les 3 S, soupe, savon, salut. Et là, on a probablement des questions à se poser. Alors, par quel moyen les chrétiens ou l'Église peut se rendre visible et lisible? Bon, ben, on en a dit quelques mots. C'est comme ça qu'il est au verset 16. Le but, c'est que les hommes, les non-chrétiens voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, que les païens disent « Ah non, mais là, moi ce que je vois chez vous, je l'ai vu nulle part ailleurs. » Ben, déjà un témoignage qu'on peut offrir, c'est celui d'une vie transformée. Alors je dis pas que, je sais, il y a des personnes, ils peuvent pas vous dire à quel moment elles sont nées de nouveau, et voilà. Alors c'est sûr, quelqu'un qui braquait les banques, qui faisait les 400 coups avant de connaître Jésus, qui se convertit, il y a un avant, il y a un après, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Mais il y a d'autres personnes, c'est pas aussi tranché que ça, mais il doit y avoir une qualité de vie qui donne envie. Et les non-chrétiens avec lesquels on peut être en contact, ils doivent voir que nous, on ne fonctionne pas avec le même processeur que tout le monde. Et donc, cette parole, amener les païens à glorifier Dieu. Non, mais ça va très loin. Et pour Jésus, il n'y a pas photo. Hein. Dans la mesure où l'Église et le chrétien incarnent le profil des béatitudes, automatiquement, il va être lumière du monde et celle de la terre. Et au final, les chrétiens, les non-chrétiens vont dire « Ah non, mais moi là, ce que je vois chez vous, et au travers dans vos attitudes, moi je ne l'ai vu nulle part ailleurs. » Et devant ce témoignage, il y a deux possibilités. Ou bien, moi j'ai envie de vous ressembler, de faire comme vous, de devenir chrétien, de me convertir. Ou bien, non merci, moi j'élimine, je persécute. Il nous reste 3 minutes 30 de bonheur. Je veux quand même vous donner l'occasion de poser des questions. Peut-être ai-je dit quelque chose qui vous semble pas biblique ou si vous avez envie de me lapider, attendez la fin de... Mais questions, commentaires, réflexions qui peut édifier, encourager les uns ou les autres.
Tu as évoqué le fait que voilà, qu'est-ce qui rend qu'est-ce qui est important, effectivement, il faut prier, etc. Tu as parlé des valeurs de l'évangile.
Oui. Ouais.
Et en fait, une fois que j'ai diminué, pour moi, c'est, entre autres, des notions, alors on a parlé du monde, le monde est bien plus présent, même si tout est calfeutré, il est bien plus présent dans l'Église qu'on imagine. Un exemple parmi beaucoup d'autres, l'individualisme. L'individualisme, il me semble que nous, chrétiens, on est bien du monde. Parce que... Moi, je trouve vraiment que, en tout cas à Dunkerque, peut-être ailleurs, on a de moins en moins le sens de l'Église, de la communauté. C'est-à-dire que je vais à l'Église pour qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi,
ouais.
Mais on ne se pose pas toujours la question de qu'est-ce que je veux,
ouais.
Mon rôle dans l'Église.
Ouais.
Bon, un exemple pour dire que le monde, il est finalement,
ouais.
On aime bien cataloguer, dire le monde, c'est ceci, c'est ceci.
Ouais.
Mais en réalité, le monde, il est bien
tout à fait.
Magique dans mon cœur.
Oui. Tout à fait. De toute façon, on peut dire, dès lors que je ne suis pas soumis à la seigneurie de Jésus, eh bien, je laisse place au monde. Si c'est pas Jésus qui règne dans tel ou tel domaine de ma vie, ben, il n'y a pas 36 autres solutions. Hein. C'est l'esprit du monde. Ouais. Tout à fait.
Là aussi, on est beaucoup plus dans les valeurs du monde, ouais. Que dans les valeurs de l'évangile.
Tout à fait.
Ça fait éternuer.
Bah ouais.
C'est plutôt poivre que sel.
Ouais. Alors, peut-être que le chrétien, il est à rebrousse-poil. Donc, comme tu dis si bien, il peut, dans un premier temps, être un peu comme du poivre, là. C'est un empêcheur de tourner en rond. Ça peut faire éternuer, ça peut interloquer, ça peut... Bon, et si ça va plus loin, peut-être que dans un premier temps, ils vont voir le poivre, et peut-être qu'à un moment donné, pour que ça aille plus loin, pour qu'ils voient nos bonnes œuvres, ils feront qu'ils découvrent le sel. Alors le sel, des gens qui souffrent du sel sur une blessure, ça ravive la souffrance, et il y a toutes sortes de réactions, mais bon... L'image globale, on voit bien que ce que Jésus veut dire, c'est que on doit être différent. Et la question de fond, finalement, c'est qu'est-ce qui fait ma spécificité à moi, qui m'appelle Danny Amo, en quoi est-ce que je suis pas comme quelqu'un qui connaît pas Jésus? Et si les chrétiens pouvaient voir de ce qu'ils voient de ma vie. Est-ce qu'ils ont des preuves flagrantes que, non, toi, t'es pas comme nous, c'est évident, t'as une autre mentalité, une autre façon de réfléchir, de penser. Et parfois, des chrétiens qui ont un bon témoignage dans leur vie professionnelle, par exemple, ils vont s'entendre dire, non, mais toi, tu fonctionnes pas avec le même processeur, tu raisonnes pas comme nous, et là, c'est bon signe. Les gens, ils se rendent bien compte que, on n'a pas le même état d'esprit, et voilà. Alors parfois c'est un processus, ça saute pas à l'œil nu comme ça du but en blanc. Hein. Je crois que je vais me faire taxer de faux prophète là parce que il est 31, 32. Je rends le micro à qui de droit qui va conclure comme il convient. Merci pour votre attention.